Chapitre 5. Un navire en vue. Au début de juillet, Halg eut une grosse émotion. Il se découvrit un rival. Cet émigrant du nom de Patterson, qui lui avait procuré à prix d'or les vêtements dont il était si fier, était entré en relation avec la famille Cerroni et tournait visiblement autour de Graziella. Halg fut désespéré de cette complication. Un adolescent de 18 ans, à demi sauvage, pouvait-il lutter contre un homme fait, pourvu de richesses qui semblaient fabuleuses au pauvre Indien ? Malgré l'affection qu'elle lui témoignait, était-il admissible que Graziella hésitât ? Celle-ci n'hésitait pas, en effet, mais ses préférences n'allaient pas dans le sens qu'il redoutait. L'innocente tendresse et la jeunesse de Halg triomphaient sans peine des avantages de son compétiteur. Si l'Irlandais s'entêtait à s'imposer, c'est qu'il n'était pas sensible à l'éloignement que lui témoignaient Graziella et sa mère. Elle lui répondait à peine, et quand il leur adressait la parole, elle feignait de ne pas s'apercevoir de sa présence. Patterson n'en montrait aucun trouble. Cela ne l'empêchait pas de continuer son manège avec la froide persévérance qui avait jusqu'ici assuré le succès de ses entreprises. Il ne laissait pas d'ailleurs d'avoir un allié dans la place, et cet allié n'était autre que Lazare Cerroni. S'il était mal reçu par les deux femmes, le père, du moins, lui faisait bon visage et paraissait approuver la recherche dont sa fille était l'objet. Patterson et lui étaient dans les meilleurs termes. Parfois même, ils s'isolaient pour de mystérieux conciliabules, comme s'ils eussent traité des affaires qui ne regardaient personne. Quelles affaires pouvaient bien être communes à cet ivrogne invétéré et à ce paysan madré, à ce panier percé et à cet avare? Ces conciliabules étaient pour Halg une cause de sérieux soucis qu'aggravait encore la conduite de Lazare Cerroni. Le misérable continuait à s'enivrer et les scènes recommençaient à intervalles variables mais de plus en plus rapprochés. Halg ne manquait pas d'en informer chaque fois le Caudger et celui-ci portait le fait à la connaissance d'Hartlepool. Mais ni le Caudger ni Hartlepool ne pouvaient arriver à découvrir comment Lazare Cerroni se procurait cette quantité d'alcool, alors qu'il n'en existait pas une goutte sur l'île Host, en dehors des provisions sauvées du Jonathan. La tente abritant ces provisions était gardée jour et nuit, en effet, par les 16 survivants de l'équipage, divisés en 8 sections de 2 hommes, qui se relevaient toutes les 3 heures. Ceux-ci, y compris Kennedy et Sir Day, subissaient du reste docilement l'ennui de ces 3 heures de garde quotidienne. Aucun d'eux ne se permettait le moindre murmure, et ils faisaient preuve de la même obéissance envers Hartlepool que lorsqu'ils naviguaient sous ses ordres. Leur esprit de discipline demeurait intact. Ils formaient un groupe numériquement faible, mais que l'union rendait fort, sans même tenir compte du précieux concours que Dick et Sand n'eussent pas manqué cependant de lui apporter, le cas échéant. Pour le moment, tout au moins, personne ne songeait à mettre à contribution la bonne volonté des deux enfants. Dispensés de garde à cause de leur âge, ils jouissaient d'une liberté complète qu'ils employaient à s'amuser à cœur perdu. Le temps passé sur l'île Host ferait certainement époque dans leur existence, et resterait gravé dans leurs esprits comme une période de plaisirs incessants. Ils modifiaient leur jeu selon les circonstances. La neige tombait-elle en épais flocons ? Ils y creusaient des cachettes ou se livraient à de prodigieuses parties. La température s'abaissait-elle au-dessous du point de congélation ? C'était le moment des glissades, ou bien, à cheval sur une planche en guise de traîneau, ils s'élançaient le long des pentes et goûtaient l'ivresse des chutes vertigineuses. Le soleil brillait-il au contraire ? Accompagnés d'innombrables galopins de leur espèce, ils se répandaient alors dans les environs du campement et inventaient 1000 jeux dont l'agrément se mesurait à la violence. Au cours d'une de leurs randonnées au bord de la mer, ils découvrirent, un jour qu'ils n'étaient accompagnés par hasard que de 3 ou 4 enfants, une grotte naturelle creusée dans les flancs de la falaise, au revers du cap limitant à l'est la baie Scotchwell. Cette grotte, dont l'ouverture orientée au sud regardait par conséquent le rivage sur lequel s'était perdu le Jonathan, n'eût pas retenu longtemps leur attention, sans une particularité qui la rendait infiniment plus intéressante. Au fond s'ouvrait une fissure, aboutissant, après 2 ou 3 mètres, à une seconde caverne entièrement souterraine, où naissait une galerie sinueuse qui s'élevait au travers du massif jusqu'à une grotte supérieure, ouverte, celle-ci, sur le versant nord de la falaise. De là, on apercevait le campement, où l'on pouvait descendre en se laissant glisser sur la pente rocailleuse. Cette découverte remplit d'aise les petits explorateurs. Ils se gardèrent bien de la publier. Ce chapelet de grottes, c'était un domaine qui leur appartenait et dont ils étaient friands de conserver l'exclusive propriété. Ils y allèrent au contraire en grand mystère, afin d'y organiser des amusements supérieurs. Ils y furent successivement des sauvages, des Robinsons, des voleurs, avec la même passion. De quels cris retentirent ces voûtes souterraines ? De quelles effrénées galopades résonna la galerie qui réunissait les 2 étages du système ? La traversée de cette galerie n'était pas sans danger, cependant. En un point de son parcours, elle paraissait prête à s'effondrer. Là, son toit, élevé 1 mètre tout au plus, n'était soutenu que par un bloc unique, dont la base mordait à peine sur un autre roc incliné, et que le plus petit effort eût fait glisser. De là, nécessité de s'avancer sur les genoux et de s'insinuer avec la plus extrême prudence dans l'espace étroit restant libre entre le bloc instable et la paroi de la galerie. Mais ce danger, pour terrifiant qu'il fût en réalité, n'effrayait pas les enfants, et son seul effet était de donner plus de piquant à leur jeu. Ainsi Dick et Sand occupaient joyeusement leur temps. Ils ne se souciaient de rien, pas même de leur ennemi, Fred Moore, qu'ils rencontraient parfois de loin et devant lequel ils prenaient alors la fuite sans vergogne. Les migrants n'essayaient pas d'ailleurs de les poursuivre. Sa colère était tombée, et ce n'était pas contre les 2 enfants que subsistait sa rancune. Au surplus, que Fred Moore fût irrité ou non, ceux-ci ne songeaient pas à se le demander. Rien n'existait pour eux que leur jeu, grâce auquel les jours passaient avec une rapidité qu'ils estimaient déplorable. Si par un référendum on eût consulté les émigrants, Dick et Sand eussent probablement été les seuls de cet avis. Autant le temps leur semblait court, autant il semblait long aux autres, confinés le plus souvent dans leurs inconfortables demeures. Bien entendu, il convient de faire exception pour Lewis Dorick et son cortège de chapardeurs. Pour ceux-ci, l'hivernage s'écoulait agréablement. Ces malins avaient résolu la question sociale. Ils vivaient comme en pays conquis, ne se privant de rien, thésaurisant même en vue de mauvais jours possibles. C'était merveille que leurs victimes fissent preuve d'une telle longanimité. Il en était ainsi, cependant. Les exploités représentaient assurément le nombre, mais ils l'ignoraient, et il ne leur venait même pas à la pensée de grouper leurs forces éparses. La bande de Dorick formait au contraire un faisceau compact et s'imposait par la peur à chaque émigrant individuellement. En fait, personne n'osait résister aux exactions de ces tyrans. Par des moyens moins répréhensibles, une 50aine d'autres naufragés avaient également réussi à lutter contre la dépression qui résultait de cette vie stagnante. Sous la direction de Caroli, ils occupaient leur loisir à pourchasser les loups marins. C'est un difficile métier que celui de louvetier. Après avoir attendu patiemment que les amphibies, dont la méfiance est très grande, s'aventurent sur le rivage, il faut faire en sorte de les cerner sans leur laisser le temps de prendre la fuite. L'opération ne va pas sans risque, ces animaux choisissant toujours les points les plus escarpés pour s'y livrer à leurs ébats. Bien guidés par Caroli, les chasseurs obtinrent un brillant succès. Ils firent un butin considérable de loups marins, dont la graisse pouvait être utilisée pour l'éclairage et le chauffage, et dont les peaux assureraient un bénéfice important au jour du rapatriement. Abstraction faite de ces énergiques, les émigrants, très déprimés, préféraient se terrer frileusement dans leur demeure. La température n'était pas excessive pourtant. Pendant la période la plus froide, qui s'étendit du 15 juillet au 15 août, le minimum thermométrique fut de 12 degrés et la moyenne de 5 degrés au-dessous de zéro. Les affirmations du Kaudjer étaient donc justifiées et la vie dans cette région n'aurait rien eu de particulièrement cruel, n'eût été la fréquence du mauvais temps et la pénétrante humidité qui en était la conséquence. Cette humidité perpétuelle avait de déplorables résultats au point de vue hygiénique. Les maladies se multipliaient. Le Kaudjer arrivait généralement à les enrayer, mais il n'en était pas ainsi quand elles se développaient dans des organismes affaiblis et, par suite, incapables de réagir. Au cours de l'hiver, il se produisit pour cette raison 8 décès, dont Lewis Doric dut être désolé, car ils frappèrent en majorité dans la partie de la population qui se laissait le plus bénévolement mettre à contribution. Un de ces décès désespéra Dick et Sand. Ce fut celui de Marcel Norelli. Le petit infirme ne put résister à ce rude climat. Sans souffrance, sans agonie, il s'éteignit un soir en souriant. Les survivants ne semblaient pas fort émus de ces disparitions. Outre qu'elles étaient en quelque sorte noyées dans la foule, on se flatte volontiers d'échapper personnellement au malheur du voisin. L'annonce d'une mort nouvelle n'interrompait qu'un instant leur léthargie. À vrai dire, ils paraissaient ne plus avoir de vitalité, hormis pour s'égosiller dans des disputes aussi violentes d'expression que fut-il dans leurs principes. La fréquente répétition de ces querelles inspirait au Kaudjer d'amères réflexions. Il était trop intelligent pour ne pas voir les choses sous leur vrai jour, trop sincère pour échapper aux conséquences logiques de ses observations. Dans cette réunion fortuite d'hommes venus de tous les points du monde, la maîtresse passion était décidément la haine. Non pas la haine, blâmable encore, du moins logique, qui gonfle le cœur de celui qui souffre un grave et injuste dommage, mais une haine réciproque et latente, essentielle pour ainsi dire, qui, dans une catastrophe si exceptionnelle, et tout réduit qu'ils fussent aux dernières limites du malheur, et toutes pareilles que fussent leurs destinées sans joie, les jetaient pour des riens les uns contre les autres, comme si la nature mêlait aux germes de vie un obscur, un impérieux instinct de détruire ce qu'elle crée. La veulerie de ses compagnons frappait aussi le Kaudjer. À peine si quelques-uns, tels que les quatre familles dissidentes et les chasseurs de loups marins, avaient eu le courage de réagir. Les autres se laissaient aller au jour le jour. Ils avaient pitance et logis, ils n'en demandaient pas davantage. Aucun besoin de lutter contre la matière pour la soumettre à leur volonté. Aucun désir d'améliorer leur sort au prix d'un effort. Aucune prévision d'avenir. Esclaves dociles, disposés à exécuter ce qu'on leur commandait, ils ne faisaient rien de leur initiative propre et s'en remettaient à autrui du soin de décider pour eux. Le Kaudjer ne pouvait méconnaître enfin cette lâcheté générale qui permettait à un petit nombre de dominer une majorité immense, qui créait quelques rares exploiteurs aux dépens d'un troupeau d'exploités. L'homme est-il donc ainsi? Ces lois imparfaites qui le contraignent à penser et à tirer parti de son intelligence contre la force brute des choses, qui tendent à limiter le despotisme des uns et l'esclavage des autres, qui tiennent en bride les instincts haineux, ces lois sont-elles donc nécessaires? Et est-elle nécessaire l'autorité qui les applique ? Le Kaoudjer n'en était pas encore à répondre par l'affirmative à une pareille question. Mais qu'il pût seulement se la poser, cela suffisait à indiquer quelle transformation s'opérait dans sa pensée. Il était obligé de s'avouer que l'homme se montrait fort différent dans la réalité de la créature idéale qu'il s'était complu à imaginer de toutes pièces. Il n'y avait rien d'absurde a priori, par conséquent, à admettre qu'il fût bon de le protéger contre lui-même, contre sa faiblesse, son avidité et ses vices, ni à professer, chacun réclamant cette protection dans son intérêt propre, que les lois ne fussent en somme que l'expression transactionnelle des aspirations individuelles, comme serait en mécanique la résultante de forces divergentes. Pris dans l'inextricable réseau de prescriptions qui ligotent les citoyens du vieux monde, lorsque, avant de s'exiler en Magellanie, il avait vécu parmi eux, le Kaoudjer n'avait ressenti que la gêne imposée par l'amas formidable des lois, des ordonnances, des décrets, et leur incohérence, leur caractère trop souvent vexatoire, l'avait aveuglé sur la nécessité supérieure de leurs principes. Mais à présent, mêlé à ce peuple placé par le sort dans des conditions voisines de l'état primitif, il assistait, comme un chimiste penché sur son fourneau, à quelques-unes des incessantes réactions qui s'opèrent dans le creuset de la vie. À la lumière d'une telle expérience, cette nécessité commençait à lui apparaître, et les bases de sa vie morale en étaient ébranlées. Toutefois, le vieil homme se débattait en lui. S'il ne pouvait empêcher sa raison d'évoluer, son tempérament libertaire protestait. À tout instant, le problème se posait à son esprit, et c'était alors la bataille des arguments, cela étayant sa doctrine, ceci la sapant sans relâche. Lutte incessante, lutte cruelle, dont il était déchiré et meurtri. Plus encore peut-être que l'imperfection des hommes, leur impuissance à rompre avec leur routine habituelle était pour le Kaoudjer un sujet d'étonnement. Sur cette côte déserte, à ces confins du monde, les naufragés n'avaient rien abandonné de leurs idées antérieures. Les principes, voire les conventions et les préjugés qui régissaient leur vie d'autrefois, gardaient sur eux le même empire. La notion de propriété, notamment, restait un article de foi. Pas un qui ne dit comme la chose la plus naturelle du monde « ceci est à moi », et nul n'avait conscience du comique intense, comique tellement éblouissant pour les yeux d'un philosophe libertaire, de cette prétention d'un être si fragile et si périssable à monopoliser pour lui tout seul, une fraction quelconque de l'univers. Quelque absurde que l'estimât le Kaoudjer, cette prétention était cependant ancrée dans leur cerveau, et ils n'en démordaient pas. Personne ne consentait à se séparer au profit d'autrui du plus misérable des objets en sa possession, qu'en échange d'une contre-valeur, objet d'une autre nature ou service rendu. Dans tous les cas, il s'agissait d'une vente. Donner, le mot semblait rayer de leur vocabulaire et la chose de leur esprit. Le Kaoudjer songeait que ses amis les Fuégiens, dont les hordes errantes sillonnent les terres magellaniques, eussent été bien surpris de pareilles théories, eux qui n'ont jamais rien possédé que leur personne. Lors de ces échanges, ou, pour employer le mot juste, de ces ventes, qui se renouvelaient constamment, il arrivait que le cédant n'eût besoin d'aucun service, ni d'aucun des objets possédés par l'autre partie. Dans ce cas, l'or servait à conclure la transaction. Le Kaoudjer admirait grandement cette pérennité de la valeur de l'or. Ce métal est cependant un bien imaginaire. Il ne se mange pas, il ne peut servir à protéger contre le froid ni contre la pluie, et pourtant il est convoité à l'égal des biens réels qui possèdent ses avantages. Quel étrange et merveilleux phénomène que l'humanité entière s'incline, d'un consentement unanime, devant une matière essentiellement inutile et dont la convention générale fait tout le prix. Les hommes en cela ne sont-ils pas semblables à des enfants qui, par manière de jeu, vendent sérieusement de petits cailloux que leur imagination seule transforme en objets précieux? Pour que le jeu finît, il suffirait que l'un d'eux découvrît et proclamât que ces objets précieux ne sont en vérité que des cailloux. Certes, le Kaudger ne niait pas, le principe de la propriété étant admis, la commodité qui résultait de l'emploi d'une valeur arbitraire représentative de toutes les autres. Mais cette commodité n'allait pas, à ses yeux, sans un inconvénient beaucoup plus grave que l'avantage n'était précieux. C'est l'or qui, dans le régime de la propriété individuelle, permet la création et l'accroissement perpétuel des fortunes. Sans lui, les hommes, tous dans un état médiocre, il est vrai, seraient du moins à peu près pareils. C'est grâce à lui qu'une seule et même main peut contenir en puissance tant de pouvoir et de plaisir, tandis que d'innombrables êtres, pour en recevoir quelques parcelles, consentent à subir ce pouvoir et à procurer ces plaisirs auxquels ils n'auront point de part. Le Kaudger se trompait assurément. L'or n'est qu'un moyen de satisfaire le besoin d'acquérir inhérent à la nature de l'homme. À défaut de ce moyen, il en eût imaginé un autre qui eût présenté une même proportion d'inconvénients et d'avantages, et dans tous les cas, il eût été ce qu'il est, un être illogique et divers, où se rencontrent à dose égale le meilleur et le pire. Tels étaient, entre cent autres, les arguments pour et contre qui se heurtaient dans le cerveau du Kaudger, comme des soldats sur un champ de bataille. Le temps était passé où le droit à une liberté intégrale avait à ses yeux la force d'un dogme. Maintenant, ces maximes libertaires avaient perdu leur apparence de certitude irréfragable. Il en arrivait à discuter avec lui-même la nécessité de l'autorité et d'une hiérarchie sociale. Les faits devaient se charger de lui fournir de nouvelles raisons en faveur de l'affirmative, en lui prouvant qu'il existe parmi les hommes, comme parmi les animaux, de véritables bêtes fauves dont il est nécessaire de juguler les dangereux instincts. Capable de tout pour satisfaire la passion qui les domine, de tels êtres sèmeraient, en effet, la désolation et la mort autour d'eux, sans la loi qui leur crie « Halte là !» Un drame de ce genre, drame poignant à coup sûr, puisque la faim, ce besoin primordial de tout organisme vivant, en était le ressort, se jouait précisément alors dans la maison occupée par Patterson en compagnie de Long et de Blaker, ce pauvre diable que la nature ironique avait doué de l'insatiable appétit catalogué en pathologie sous le nom de boulimie. Ainsi que tout le monde, Blaker, au moment de la distribution, avait reçu sa part de vivres. Mais, en raison de sa voracité maladive, cette part, prévue pour 4 mois, avait été épuisée en moins de 2. Depuis, comme par le passé, plus encore même que par le passé, il connaissait les tortures de la faim. Sans doute, s'il eût été d'un naturel moins timide, il aurait aisément trouvé un remède à ses souffrances. Il aurait suffi d'un mot à Hartlepool ou au Kaudger pour qu'un supplément de nourriture lui fût distribué. Mais Blaker, peu avantagé au point de vue intellectuel, était bien loin de songer à une démarche si audacieuse. Placé dès sa naissance tout au bas de l'échelle sociale, son malheur avait depuis longtemps cessé de l'étonner, et il ne connaissait plus que cette passivité résignée qui est l'ultime ressource des misérables. Peu à peu, il avait pris l'habitude d'obéir comme un fœtu impalpable à des forces irrésistibles dont il n'essayait même pas d'imaginer la nature, et c'est pourquoi il n'aurait jamais conçu le fol espoir de modifier d'une manière quelconque la distribution des vivres qu'il supposait avoir été ordonnée par une de ses forces supérieures. Plutôt que de se plaindre, il fût mort d'inanition si Patterson n'était venu à son secours. l'Irlandais n'avait pas été sans remarquer avec quelle rapidité son compagnon consommait les aliments mis à sa disposition, et cette observation lui avait aussitôt fait entrevoir la possibilité d'une opération avantageuse. Tandis que Blaker dévorait, Patterson se rationna au contraire. Poussant aux dernières limites ses instincts de sordide avarice, il se nourrit à peine, se priva du nécessaire, allant jusqu'à ramasser sans vergogne les restes dédaignés par les autres. Le jour vint où Blaker n'eut plus rien à manger. C'était le moment qu'attendait Patterson. Sous couleur de lui rendre service, il proposa à son compagnon de lui rétrocéder, à prix débattu, une partie de ses provisions. Marché accepté d'enthousiasme et aussitôt exécuté que conclu, marché qui se répéta à l'infini tant que l'acheteur eut de l'argent, le vendeur prétextant de la rareté croissante des vivres pour augmenter graduellement ses prix. Par exemple, les poches de Blaker vidées, Patterson changea de ton. Il ferma incontinent boutique sans accorder la plus légère attention au regard éperdu du malheureux qu'il condamnait ainsi à mourir de faim. Considérant son malheur comme un nouvel effet de la force des choses, celui-ci ne se plaignit pas plus qu'auparavant. Écroulé dans un coin, comprimant à deux mains son estomac torturé, il laissa passer les heures immobiles, ne trahissant les sensations cruelles que par les tressaillements de son visage. Patterson le considérait d'un œil sec. Qu'importait que souffrît, qu'importait que mourût un homme qui ne possédait plus rien ? La douleur eut enfin raison de la résignation du patient. Après 48 heures de supplice, il sortit en chancelant, erra dans le campement et disparut. Un soir, le Caudger, en regagnant son ajoupa, heurta du pied un corps étendu. Il se pencha et secoua le dormeur, qui ne répondit que par un gémissement. Le dormeur était un malade. Après l'avoir ranimé avec quelques gouttes d'un cordial, le Caudger l'interrogea. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il. « J'ai faim, » répondit Blaker d'une voix faible. Le Caudger fut abasourdi. « Faim ? » répéta-t-il. « N'avez-vous pas reçu votre part de vivres comme tout le monde ?» Blaker, alors, en phrases hachées, lui raconta brièvement sa triste histoire. Il lui dit sa maladie et le besoin morbide de manger qui en était la conséquence. Comment, ses provisions épuisées, il avait vécu en achetant celles de Patterson, et comment et pourquoi, enfin, celui-ci l'avait laissé, depuis 3 jours, agoniser. Le Caudger écoutait avec stupéfaction cet incroyable récit. Il s'était donc trouvé un homme pour avoir le courage de se livrer à cet affreux négoce. Un homme qui, en dépit de tous les drames et de tous les cataclysmes, avait conservé intact une aussi effroyable avidité. Marchand voleur qui avait menti afin de pouvoir céder contre espèce ce que d'autres lui eussent donné, marchand éhonté qui avait impitoyablement vendu la vie à son semblable. Le Caudger garda ses réflexions pour lui. Quelle que fût l'infamie du coupable, mieux valait la laisser impunie plutôt que de créer, en la dévoilant, une cause supplémentaire de discorde. Il se contenta de faire délivrer de nouvelles provisions à Blaker, en l'assurant qu'on lui en donnerait à l'avenir autant qu'il serait nécessaire. Mais le nom de Patterson resta gravé dans sa mémoire, et l'individu qui le portait demeura pour lui le prototype de ce que l'âme humaine peut contenir de plus abject. Aussi ne fut-il pas surpris quand, 3 jours plus tard, Halg prononça ce même nom à propos d'une autre histoire presque aussi répugnante que la première. Le jeune homme revenait de sa visite quotidienne à Graziella. Dès qu'il aperçut le Caudger, il courut à sa rencontre. « Je sais, lui dit-il d'une haleine, qui fournit l'alcool à Cerroni. »« Enfin !» dit le Caudger avec satisfaction. « Qui est-ce ? » Patterson. Patterson. Lui-même, affirma Halg. Tout à l'heure, je l'ai vu lui remettre du rhum. Je m'explique maintenant pourquoi ils sont si bons amis tous les deux. « Tu es sûr de ne pas te tromper ?» insista le Khaoudjer. « Absolument. Le plus curieux, c'est que Patterson ne donne pas sa marchandise. Il la vend, et même assez cher. J'ai entendu leur discussion. Ces Ronnie se plaignaient. Il disait que toutes ses économies étaient passées dans la poche de Patterson et qu'il n'avait plus rien. L'autre ne répondait pas, mais il paraissait peu disposé à continuer du moment que c'était gratuitement. Halg s'arrêta un instant, puis s'écria avec colère. « Si Cerrone n'a plus d'argent, il est capable de tout. Que vont devenir sa femme et sa fille ?»«
On avisera, » répondit le Khaoudjer. Et après une pause, « Puisque nous avons entamé ce sujet, » dit-il d'un ton d'affectueux reproche, « épuisons-le. Si je n'ai jamais voulu t'en parler, je n'ignore pas quels sont tes rêves. Où te mèneront-ils, mon garçon ?»
Halg, les yeux baissés, garda le silence. Le Khaoudjer reprit. « Dans peu de temps, dans un mois peut-être, tous ces gens-là vont disparaître de notre vie, Graziella comme les autres.
« Pourquoi ne resterait-elle pas avec nous ?» objecta le jeune Phuégien en relevant la tête.
« Sa mère aussi, bien entendu.
« Crois-tu qu'elle consentirait à quitter son mari ?» objecta le Khaoudjer.
Halg eut un geste violent. « Il faudra qu'elle y consente, » affirma-t-il d'une voix sourde. Le Khaoudjer hocha la tête d'un air de doute.
« Graziella m'aidera à la persuader. Pour elle, son parti est pris. Elle est décidée à rester ici, si vous le permettez. Non seulement elle est lasse de la vie que lui fait son père, mais il y a aussi des émigrants dont elle a peur.
« Peur ?» répéta le Khaoudjer surpris.
« Oui, Patterson d'abord. Voilà un mois qu'il tourne autour d'elle. » Et s'il a vendu du rhum à Cerrone, c'est pour mettre celui-ci dans son jeu. Depuis quelques jours, il y en a un autre, un nommé Sirk, un de la bande à Doric. C'est le plus à craindre de tous.
Qu'a-t-il fait?
Graziella ne peut sortir sans le rencontrer. Il l'a abordé et lui a parlé grossièrement. Elle l'a remis à sa place et Sirk l'a menacé. C'est un homme dangereux.
Graziella en a peur. Heureusement, je suis là.
Le Khaoudjer sourit de cette explosion de juvénile vanité. Du geste, il apaisa son pupille.
« Calme-toi, Halg, calme-toi. Attendons le jour du départ, et nous verrons alors comment les choses tourneront. D'ici là, je te recommande le sang-froid. La colère est non seulement inutile, mais nuisible. Souviens-toi que la violence n'a jamais produit rien de bon, et qu'il n'est pas de cas, sauf quand on est forcé de se défendre, où l'on soit excusable d'y recourir. »
Les soucis du Khaoudjer furent accrus par cette conversation. Outre l'ennui de voir Halg engagé dans cette fâcheuse aventure, il comprenait que l'intervention des rivaux allait encore compliquer les choses, en excitant la jalousie du premier en date et en provoquant peut-être des scènes regrettables. En ce qui concernait la question de l'alcool, la découverte de Halg n'avait fait que déplacer la difficulté sans la résoudre. On avait découvert le fournisseur de Cerrone. Mais où ce fournisseur se procurait-il l'alcool qu'il vendait? Patterson, dont il connaissait l'abominable nature, possédait-il un stock en réserve quelque part? C'était peu croyable. En admettant qu'il eût réussi, malgré la sévérité des règlements et la surveillance du capitaine Lécart, à embarquer une pacotille prohibée au départ. Où l'eût-il caché depuis le naufrage? Non, il puisait nécessairement dans la cargaison du Jonathan. Mais par quel moyen, puisqu'elle était gardée jour et nuit? Que le voleur fût Cerrone ou Patterson, la difficulté restait la même. Les jours suivants n'amenèrent pas la solution du problème. Tout ce qu'il fut possible de constater, c'est que Lazare Cerrone continuait à s'enivrer comme par le passé. Le temps s'écoula. On arriva au 15 septembre. Les réparations de la Well Kiej furent terminées à cette date. La chaloupe était remise en bon état au moment où la mer allait redevenir praticable. La longueur croissante des jours annonçait l'équinoxe du printemps. Dans une semaine, on en aurait fini avec l'hiver. Toutefois, avant de céder la place, la mauvaise saison eut un retour offensif.
Pendant 8 jours, un ouragan plus violent que ceux qui avaient précédé hurla sur l'île Host, obligeant les émigrants à se terrer une dernière fois. Puis le beau temps revint, et aussitôt la nature endormie commença à se réveiller. Au début d'octobre, le campement reçut la visite de quelques Fuégiens. Ces indigènes se montrèrent très surpris de trouver l'île Host habitée par une si nombreuse population. Le naufrage du Jonathan, survenu au début de la période hivernale, était en effet resté inconnu des Indiens de l'archipel. Nul doute que la nouvelle s'en répandit désormais rapidement. Les émigrants n'eurent qu'à se louer de leur rapport avec ces quelques familles de pêcherais. Par contre, il n'est pas certain que ceux-ci en eussent pu dire autant. Il y eut en très petit nombre, il est vrai, des civilisés, tels que les frères Moore, par exemple, qui crurent devoir affirmer la supériorité qu'ils s'attribuaient en se montrant brutaux et grossiers envers ces sauvages inoffensifs. L'un d'eux alla même plus loin et poussa la cupidité au point d'être tenté par les misérables richesses de cette horde vagabonde. Le Kaudjer, attiré par des cris d'appel, dut un jour venir au secours d'une jeune Fuégienne que malmenait ce même Sirk dont Halg avait prononcé le nom. Le lâche individu cherchait à s'emparer des anneaux de cuivre dont la jeune fille ornait ses poignets et qu'il s'imaginait être en or. Rudement châtié, il se retira l'injure à la bouche. C'était, tout compte fait, le deuxième émigrant qui se déclarait ouvertement l'ennemi du Kaudjer. Celui-ci avait vu arriver avec grand plaisir ses amis fuégiens. Il retrouvait en eux sa clientèle, et à leur empressement, à leur témoignage de reconnaissance, on voyait quelle affection, on pourrait dire quelle adoration, les mettait à ses pieds. Un jour, on était alors le 15 octobre, Harry Rhodes ne put lui cacher combien le touchait la conduite de ces pauvres gens. « Je comprends, lui dit-il, que vous soyez attaché à ce pays où vous faites œuvre si humaine et que vous ayez hâte de retourner au milieu de ces tribus. Vous êtes un dieu pour elles. »«
Un dieu ? » interrompit le Kaudjer. « Pourquoi un dieu ? Il suffit d'être un homme pour faire le bien. »
Harry Rhodes, sans insister, se borna à répondre. « Soit, puisque ce mot vous révolte. Je dirais donc, pour exprimer autrement ma pensée, qu'il n'eût tenu qu'à vous de devenir roi de la Magellanie au temps où elle était indépendante. » « Les hommes, ne fussent-ils que des sauvages, répliqua le Kaudjer, n'ont aucun besoin d'un maître. D'ailleurs, un maître, les Fuégiens en ont un maintenant. » Le Kaudjer avait prononcé ces derniers mots presque à voix basse. Il semblait plus préoccupé que d'habitude. Les quelques paroles échangées lui rappelaient quelle serait l'incertitude de sa destinée le jour prochain où il devrait se séparer de cette honnête famille qui avait réveillé en lui les instincts de sociabilité si naturels à l'homme. Ce serait pour lui un chagrin profond de quitter cette femme si dévouée dont il avait pu apprécier la charitable bonté, son mari d'un caractère si sincère et si droit devenu pour lui un ami, ses deux enfants, Édouard et Clary, auxquels il s'était attaché. Ce chagrin, la famille Rhodes l'éprouverait au même degré. Leur désir à tous eût été que le Kaudjer consentît à les suivre dans la colonie africaine, où il serait apprécié, aimé, honoré comme à l'île Host. Mais Harry Rhodes n'espérait pas l'y décider. Il comprenait que ce n'était pas sans motif grave qu'un tel homme avait rompu avec l'humanité. Et le mot de cette étrange et mystérieuse existence lui échappait encore.
« Voici l'hiver achevé, » dit Madame Rhodes, abordant un autre sujet, « et vraiment il n'aura pas été trop rigoureux. » « Et nous constatons, » ajouta Harry Rhodes en s'adressant au Kaudjer, « que le climat de cette région est bien tel que nous l'avait affirmé notre ami. Aussi, plusieurs d'entre nous auront-ils quelques regrets de quitter l'île Host. » « Alors ne la quittons pas, » s'écria le jeune Edward, « et fondons une colonie en terre magellanique ?»«
Bon, » répondit en souriant Harry Rhodes, « et notre concession du fleuve Orange, et nos engagements avec la société de colonisation, et le contrat avec le gouvernement portugais. » « En effet, » approuva le Kaudjer d'un ton quelque peu ironique, « il y a le gouvernement portugais.
Ici, d'ailleurs, ce serait le gouvernement chilien, l'un vaut l'autre.
9 mois plus tôt, commença Harry Rhodes,
9 mois plus tôt, interrompit le Caudger, vous auriez abordé une terre libre à laquelle un traité maudit a volé son indépendance.
Le Caudger, les bras croisés, la tête redressée, portait ses regards dans la direction de l'Est, comme s'il se fût attendu à voir apparaître, venant de l'océan Pacifique en contournant la pointe de la presqu'île Hardy, le navire promis par le gouverneur de Punta Arenas. Le moment fixé était arrivé, on allait entrer dans la seconde quinzaine d'octobre. La mer, cependant, restait déserte.
Les naufragés commençaient à concevoir de ce retard des inquiétudes assez justifiées. Certes, il ne manquait de rien. Les réserves de la cargaison étaient loin d'être épuisées et ne le seraient pas encore avant de longs mois. Mais enfin, ils n'étaient pas à destination. Ils n'entendaient pas se résigner à un second hivernage et déjà quelques-uns parlaient de renvoyer la chaloupe à Punta Arenas.
Tandis que le Caudger s'oubliait dans ses tristes pensées, Lewis Dorick et une dizaine de ses compagnons ordinaires vinrent à passer, bruyants et provocateurs, au retour d'une excursion dans l'intérieur de l'île. Cette famille Rhodes, justement respectée dans ce petit monde, ce Caudger dont on ne pouvait nier l'influence, il n'avait jamais caché les mauvais sentiments qu'il leur inspirait.
Harry Rhodes le savait d'ailleurs, et le Caudger ne l'ignorait pas.
« Voilà des gens, dit le premier, que je laisserai ici sans regret. Il n'y a rien de bon à attendre de leur part. Ils seront une cause de trouble dans notre nouvelle colonie. Ils ne veulent admettre aucune autorité et ne rêvent que le désordre, comme si ordre et autorité ne s'imposaient pas à toute réunion d'hommes. »
Le Caudger ne répondit pas. Soit qu'il n'eût pas entendu, tant il était absorbé dans ses pensées, soit qu'il ne voulût pas répondre.
Ainsi, la conversation tournait, quoi qu'on fît, dans le même cercle, et l'on en revenait toujours à des considérations sociales sur lesquelles un accord était impossible.
Harry Rhodes, en constatant le silence du Caudger, regrettait d'avoir maladroitement abordé un pareil sujet, quand Hartlepool pénétra dans la tente et fit diversion.
« Je voudrais vous parler, monsieur, » dit-il en s'adressant au Caudger.
« Nous vous laissons, » commença Harry Rhodes.
« Inutile, » interrompit le Caudger, qui, se tournant vers le maître d'équipage, ajouta « Qu'avez-vous à me dire, Hartlepool ?»«
J'ai à vous dire, » répondit celui-ci, « que je suis fixé au sujet de l'alcool. »
C'est donc bien celui du Jonathan qui est vendu à Cerroni.
Il y a par conséquent des coupables.
2. Kennedy et Surday.
Vous en avez la preuve ?
Irréfutable.
Quelle preuve ?
Voilà. Du jour où vous m'avez parlé de Patterson, j'ai eu de la méfiance.
Cerroni est incapable d'avoir une idée tout seul, mais Patterson est un finaud. J'ai donc fait surveiller le particulier.
Par qui ? L'interrompit, en fronçant le sourcil, le Caudger, qui répugnait à l'espionnage.
« Par les mousses, » répondit Hartlepool.
« Ils ne sont pas bêtes non plus, et ils ont déniché le poteau rose. Ils ont pincé en flagrant délit Kennedy hier et Surday ce matin, au moment où, profitant de l'inattention de leurs compagnons de garde, ils vidaient une moque de rhum dans la gourde de Patterson. »
Le souvenir du martyre de Tullia et de Graziella, et aussi la pensée de Halg, firent oublier pour un instant au Caudger ses doctrines libertaires.
« Ce sont des traîtres, » dit-il. « Il faut sévir contre eux. »
« C'est aussi mon avis, » approuva Hartlepool, « et c'est pourquoi je suis venu vous chercher. »«
Moi ? Pourquoi ne pas faire le nécessaire vous-même ? »
Hartlepool secoua la tête en homme qui voit clairement les choses.
« Depuis la perte du Jonathan, je n'ai plus d'autre autorité que celle qu'on veut bien me reconnaître, » expliqua-t-il.
« Cela ne m'écouterait pas. »«
Pourquoi m'écouterait-il davantage ?»«
Parce qu'il vous craignent. »
Le Caudger fut très frappé de la réponse. Quelqu'un le craignait donc. Ce ne pouvait être qu'à cause de sa force supérieure. Toujours le même argument, la force, à la base des premiers rapports sociaux.
« J'y vais, » dit-il d'un air sombre.
Il se dirigea en droite ligne vers la tente qui abritait la cargaison du Jonathan. Kennedy, précisément, venait de reprendre la garde.
« Vous avez trahi la confiance qu'on avait en vous !» prononça sévèrement le Kaoudjer.
« Mais, monsieur, » balbutia Kennedy.
« Vous l'avez trahi !» affirma le Kaoudjer d'un ton froid. « À partir de cet instant, Sir Day et vous ne faites plus partie de l'équipage du Jonathan. »
« Mais, » voulut encore protester Kennedy,
« j'espère que vous ne le ferez pas répéter. »«
C'est bon, monsieur, c'est bon !» bégaya Kennedy, retirant humblement son béret.
À ce moment, derrière le Kaoudjer, une voix demanda « De quel droit donnez-vous des ordres à cet homme ?» Le Kaoudjer se tourna et aperçut Lewis Dorick, qui, en compagnie de Fred Moore, avait assisté à l'exécution de Kennedy.
« Et de quel droit m'interrogez-vous » répondit-il d'une voix hautaine.
Se voyant soutenu, Kennedy avait remis son béret. Il ricanait avec insolence.
« Si je ne l'ai pas, je le prends !» riposta Lewis Dorick.
« Ce ne serait pas la peine d'habiter une île Host pour y obéir à un maître. »
Un maître ! Il se trouvait quelqu'un pour accuser le Kaoudjer d'agir en maître.
Hey, « Eh, c'est assez la coutume de monsieur !» intervint Fred Moore, en prononçant ce dernier mot avec emphase. « Monsieur n'est pas comme les autres, sans doute. Il commande, il tranche. Monsieur est l'empereur, peut-être. »
Le cercle se resserra autour du Kaoudjer. « Cet homme, dit Dorick de sa voix cinglante, n'est tenu d'obéir à personne. Il reprendra, si cela lui plaît, sa place dans l'équipage. »
Le Kaoudjer garda le silence, mais ses adversaires faisant un nouveau pas en avant, il serra les poings. Allait-il donc être obligé de se défendre par la force? Certes, il ne craignait pas de tels ennemis. Ils étaient trois, ils auraient pu être 10. Mais quelle honte qu'un être pensant fût obligé d'employer les mêmes arguments que la brute!
Le Kaoudjer n'en fut pas réduit à cette extrémité. Harry Rhodes et Hartlepool l'avaient suivi, prêts à lui prêter main forte. Ils apparaissaient au loin.
Dorick, Moore et Kennedy battirent aussitôt en retraite.
Le Kaoudjer les suivait d'un regard attristé, quand des vociférations éclatèrent du côté de la rivière. Il se porta dans cette direction avec ses deux compagnons. Ils ne tardèrent pas à distinguer un groupe nombreux d'où s'élevaient les cris qui avaient attiré leur attention. Presque tous les émigrants semblaient être réunis au même point, en une foule serrée que de grands remous faisaient ondoyer. Au-dessus de la foule, des poings étaient brandis en gestes de menace. Quelle pouvait être la cause de ces troubles qui ressemblaient fort à une émeute?
Il n'en existait point, ou du moins la cause initiale était d'une telle insignifiance et remontait si loin que nul des belligérants n'eût été capable de la dire. Cela avait commencé 6 semaines plus tôt, à propos d'un objet de ménage qu'une femme prétendait avoir prêté à une autre, qui, de son côté, soutenait l'avoir rendu. Qui avait raison? Personne ne le savait. De fil en aiguille, les deux femmes avaient fini par s'injurier abondamment pour ne s'arrêter qu'à bout de souffle. 3 jours plus tard, la dispute avait repris, en s'aggravant, car les maris, cette fois, s'en étaient mêlés. D'ailleurs, il n'était plus question de la cause première du litige. Déjà, on avait perdu de vue l'origine de l'animosité, mais l'animosité subsistait. Pour lui obéir, par simple besoin de nuire, les 4 adversaires s'étaient reprochés toutes les abominations de la terre, s'accusant réciproquement d'un grand nombre de mauvaises actions, parfois imaginaires, qu'ils faisaient sortir des ombres du passé. Plus une trouvaille était cruelle, plus elle rendait fier son auteur, et chacun s'enorgueillissait du mal qu'il faisait aux autres.
« Eh bien, et moi, vous avez vu quand je lui ai dit ?»
Cette forme de discours devait souvent revenir dans leurs conversations ultérieures. L'escarmouche, toutefois, n'avait pas été plus loin, mais ensuite les langues ne s'étaient plus arrêtées. Auprès de leurs amis respectifs, les deux parties s'étaient livrées à un débinage en règle, allant, suivant une marche progressive,
des appréciations méprisantes et des insinuations aux médisances et aux calomnies. Ces propos, répétés complaisamment aux oreilles des intéressés, avaient déchaîné la tempête. Les hommes en étaient venus aux mains et l'un d'eux avait eu le dessous. Le lendemain, le fils du vaincu avait prétendu venger son père et il en était résulté une seconde bataille, plus sérieuse que la précédente, les habitants des deux maisons où logeaient les combattants n'ayant pu résister au désir d'intervenir dans la querelle. La guerre ainsi déclarée, les deux groupes avaient fait une active propagande, chacun recrutant des partisans. Maintenant, la majorité des émigrants se trouvait divisée en deux camps. Mais à mesure que les armées étaient devenues plus nombreuses, le débat avait augmenté d'ampleur. Nul ne se souvenait plus de l'origine du litige. On discutait présentement sur la destination qu'il conviendrait d'adopter lorsqu'on aurait embarqué sur le navire de rapatriement. Continuerait-on à voguer vers l'Afrique? Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, retourner en Amérique? Tel était désormais le sujet de la dispute. Par quel chemin sinueux en était-on arrivé, parti d'un vulgaire objet de ménage, à débattre de cette grave question? C'était un impénétrable mystère. Au surplus, on était convaincu de n'avoir jamais discuté autre chose, et les deux thèses en présence étaient défendues avec une égale passion. On s'abordait, on se quittait, après s'être jeté à la tête, en manière de projectile, des arguments pour et contre, tandis que les cinq Japonais, unis en un groupe paisible à quelques mètres de la foule bourdonnante, regardaient avec étonnement leurs compagnons enfiévrés. Ferdinand Beauval, tout guilleré de se sentir dans son élément, essayait en vain de se faire entendre. Il allait de l'un à l'autre, il se multipliait en pure perte, on ne l'écoutait pas. Personne d'ailleurs n'écoutait personne. Tout se passait en altercation particulière, chaque murmure partiel se confondant en une harmonie générale dont la tonalité montait de minute en minute. L'orage n'était pas loin, la foudre allait tomber. Le premier qui frapperait déclencherait ipso facto tous les poings, et la scène menaçait de finir dans un pugilat général. Comme une petite pluie abat parfois un grand vent, ainsi que l'assure le proverbe, il suffit d'un seul homme pour calmer cette exaspération un peu superficielle. Cet homme, l'un de ces émigrants qui avait entrepris la chasse des loups marins, accourait de toute la vitesse de ses jambes vers la foule en ébullition. Et tout en courant, avec de grands gestes d'appel, « Un navire !» criait-il à plein poumon. « Un navire en vue !»